Chapitre 23. Solitude. La solitude est le fond ultime de la condition humaine. L'homme est l'unique être qui se sente seul et qui cherche l'autre. Octavio Paz. Région de La Paz, début d'après-midi. Sac au dos, Carol bondissait de rocher en rocher le long de la côte découpée. Elle s'arrêta pour regarder le ciel. L'averse avait duré moins de 10 minutes, mais juste assez pour la mouiller des pieds à la tête. Les habits trempés et le visage ruisselant de pluie, elle sentait l'eau tiède s'infiltrer sous son t-shirt. « Quelle gourde je fais !» pensa-t-elle en essorant ses cheveux avec les mains. Elle avait pensé à apporter une trousse de premiers soins et un encas, mais pas de serviette ni de vêtements de rechange. Un beau soleil avait remplacé les nuages, mais il n'était pas assez chaud pour la sécher. Afin de ne pas sentir le froid, elle décida de reprendre sa course, fendant l'air d'une allure soutenue, s'enivrant de la beauté des petites criques qui se succédaient avec, en arrière-plan, les montagnes couvertes de cactus. Au détour d'un sentier pentu, un peu avant d'arriver sur la grève, un homme sortant d'un buisson fit irruption devant elle. Cherchant à le contourner, elle dévia de sa course, mais son pied se coinça dans une racine. Elle poussa un cri et ne put éviter une chute spectaculaire qui la fit retomber dans les bras de l'importun. « C'est moi, Carole !» la rassura Milo en la réceptionnant avec douceur. « Qu'est-ce que tu fous là » cria-t-elle en se dégageant. « Tu m'as suivi ? T'es complètement malade ?»
Tout de suite les grands mots.
Et arrête de me regarder avec ses yeux de merlan frit, cria-t-elle en s'apercevant soudain que ses vêtements mouillés dévoilaient ses formes.
J'ai une serviette, proposa-t-il en fouillant dans son sac. Et des vêtements secs aussi.
Elle lui arracha sa besace des mains et alla se changer derrière un grand pin parasol.
N'en profite pas pour te rincer l'œil, espèce de pervers. Je ne suis pas l'une de tes playmates.
J'aurais bien du mal à t'apercevoir derrière ton paravent,
remarqua-t-il en attrapant au vol le t-shirt et le short humide dont elle venait de se débarrasser.
« Pourquoi m'as-tu suivi ?»«
Je voulais passer un peu de temps avec toi et puis j'avais une question à te poser. »«
Je m'attends au pire. Pourquoi m'as-tu dit tout à l'heure que l'histoire de la trilogie des anges t'avait sauvé la vie ?»
Elle marqua un silence, puis répondit durement.
« Le jour où tu seras moins con, je te l'expliquerai peut-être. »
Étrange. Il l'avait rarement connue aussi vindicative. Il essaya néanmoins de continuer la conversation.
« Pourquoi ne m'as-tu pas proposé de t'accompagner dans ta balade ?»« Je voulais être seule, Milo. Ça ne t'est pas venu à l'esprit ?»
demanda-t-elle en enfilant un pull torsadé.
« Mais on en crève de notre solitude. Être seule, c'est ce qu'il y a de pire. »
Vêtue de vêtements d'homme trop grands pour elle, Carole sortit de son abri.
« Non, Milo. Ce qu'il y a de pire, c'est d'être obligé de se coltiner des types dans ton genre. »
Il accusa le coup.
« Qu'est-ce que tu me reproches, au juste ?»« Laisse tomber. Il faudrait 3 plombes pour en faire la liste, »
dit-elle en reprenant sa descente vers la plage.
« Non, vas-y. Je suis curieux, »
avoua-t-il en calant ses pas dans les siens.
« Tu as 36 ans, mais tu te comportes comme si tu en avais 18, »
commença-t-elle.
« Tu es irresponsable et lourdingue. Tu n'es qu'un coureur de plumard à la petite semaine. Tu ne jures que par les 3 B. »«
Les 3 B ?»«
Bagnole, bière et baise, »
explicita-t-elle.
« C'est fini ?»« Non, je trouve aussi que tu n'es guère rassurant pour une femme, »
lui jeta-t-elle au visage en arrivant sur le sable.
« Développe un peu. »
Elle se planta devant lui, les poings sur les hanches et le regarda dans les yeux.
« Tu fais partie des hommes de l'instant, des cow-boys avec lesquels les femmes sont prêtes à s'amuser un moment les jours de solitude et avec qui elles passeront peut-être une nuit, mais qu'elles n'imaginent jamais comme le père de leurs enfants.
« Toutes ne sont pas de ton avis, » se défendit-il.
« Si, Milo, toutes les femmes ayant 3 sous de jugeote pensent exactement comme moi. Combien de filles correctes nous as-tu présentées depuis le temps ?»«
Aucune. On en a croisé des tas, mais toujours les mêmes. Des stripteaseuses, des demi-putes ou de pauvres nanas paumées que tu ramasses dans des boîtes minables au petit matin en profitant de leur faiblesse. »«
Et toi, on peut savoir quel mec bien tu nous as ramené ?»«
Ah non, c'est vrai, on ne t'a jamais vu avec un homme. C'est pas bizarre ça, ma mignonne ? 30 ans passés et aucune liaison connue. »
Peut-être simplement que je ne t'envoie pas un fax chaque fois que j'ai quelqu'un dans ma vie ?
Tu parles. Tu te serais bien vu dans le rôle de la femme de l'écrivain, n'est-ce pas ? de celles que l'on mentionne en quatrième de couverture. Attends, je te l'écris. Tom Boyd vit à Boston, Massachusetts, avec sa femme Carol, leurs deux enfants et leur labrador. C'est ça que tu attendais, non?
T'as les fils qui se touchent, toi? Faut arrêter l'herbe qui fait rire?
Et toi, tu es menteuse comme un soutien-gorge.
Toujours tes métaphores sexuelles. Tu as vraiment un problème avec ça, mon pauvre.
C'est toi qui as un souci avec ça, rétorqua-t-il. Pourquoi tu ne portes jamais de robe ou de jupe? Pourquoi tu ne te mets jamais en maillot de bain? Pourquoi tu as une réaction épidermique chaque fois que l'on t'effleure le bras? Tu préfères les femmes ou quoi?
Avant même que Milo ait terminé sa phrase, une gifle magistrale donnée avec la force d'un coup de poing lui cingla le visage. Il eut tout juste le temps de saisir le poignet de Carol pour en éviter une deuxième.
« Lâche-moi ! Pas avant que tu te sois calmée !»
Elle se débattit comme un diable, tirant son bras de toutes ses forces au point de déséquilibrer son opposant. Elle tomba finalement à la renverse sur le sable et entraîna Milo dans sa chute. Il bascula lourdement sur elle et allait se dégager lorsqu'il se retrouva avec le canon d'un pistolet posé sur la tempe.
« Dégage !»
ordonna-t-elle en armant son flingue. Elle avait réussi à l'attraper dans son sac. Il lui arrivait peut-être d'oublier de prendre des habits de rechange, mais jamais son arme de service.
« Très bien, » fit Milo d'une voix blanche.
Déboussolé, il se releva lentement et regarda avec tristesse son ami qui le fuyait, les deux mains agrippées autour de la crosse du pistolet. Bien après qu'elle eut disparu, il resta plusieurs minutes, totalement hébété, dans le petit lagon entouré de sable blanc et d'eau turquoise. Cet après-midi-là, l'ombre des HLM de MacArthur Park s'étendit jusqu'à la pointe du Mexique.
Chapitre 24. La cucaracha. L'amour, c'est comme du mercure dans la main. Garde-la ouverte, il te restera dans la paume. Resserre ton étreinte, il te filera entre les doigts. Dorothy Parker. Restaurant La Hija de la Luna, 9h du soir. Accroché à la falaise, le restaurant de luxe surplombait à la fois la piscine et la mer de Cortez. De nuit, le paysage était aussi impressionnant qu'en plein jour, gagnant en romantisme et en mystère ce qu'il perdait en profondeur. Des lanternes en cuivre pendaient le long des treilles, et des photophores colorés nimbaient chaque table d'une lumière intimiste. Dans une robe pailletée d'argent, Billy me précéda à l'accueil de l'établissement. L'hôtesse nous reçut avec chaleur et nous conduisit à la table où Milo nous attendait depuis quelques minutes. Manifestement éméché, il fut incapable de m'expliquer les raisons de l'absence de Carol. Quelques tables plus loin, installées au milieu de la terrasse comme un bijou dans un écrin, Aurore et Raphaël Barros exhibaient leur amour neuf. Le repas fut morose. Même Billy, d'habitude enjouée, semblait avoir perdu de son entrain. Visiblement fatiguée, elle était livide et courbaturée. En début de soirée, je l'avais retrouvée dans notre chambre, recroquevillée dans son lit où elle avait dormi tout l'après-midi. Un contre-coup du voyage, avait-elle hasardé. En tout cas, j'avais dû batailler ferme pour la sortir de ses couvertures. « Que s'est-il passé avec Carol ? » demanda-t-elle à Milo. Mon ami avait les yeux injectés de sang et la tête déconfite de celui qui va s'écrouler sur la table. Alors qu'il bredouillait quelques mots d'explication, une voix de ténor déchira la quiétude du restaurant.
« la cucaracha, ya no puede caminar. »
Un groupe de mariachi venait de faire irruption à notre table pour nous chanter la sérénade. L'orchestre était puissant. Deux violons, deux trompettes, une guitare, un guitaron et une vihuela.
Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar.
Leur costume valait le détour. Pantalon noir aux coutures brodées, veste courte à revers garnie de boutons d'argent, cravate élégamment nouée, ceinture à boucles ornée d'un aigle, bottines cirées. Sans oublier le sombrero à large bord, grand comme une soucoupe volante. À la voix plaintive du chanteur, succéda un chœur exprimant bruyamment une jovialité un peu forcée qui tenait davantage de l'exutoire que de la joie de vivre.
C'est kitsch, non ?
Vous plaisantez ? S'écria Billy. Ils ont une classe folle !
Je la regardai, dubitatif. Nous n'avions visiblement pas la même définition de l'adjectif « classe ».
Messieurs, prenez-en de la graine, dit-elle en se tournant vers Milo et moi. Voici l'expression la plus juste de la virilité.
Le chanteur se lissa la moustache et se sentant apprécié, enchaîna avec un nouveau titre accompagné de pas de danse appliqués.
Parabara y la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa mi patia, y arriba y arriba.
Le concert se poursuivit ainsi pendant une bonne partie de la soirée. Passant de table en table, les mariachis déroulèrent leur répertoire de chansons populaires qui parlaient de l'amour, du courage, de la beauté des femmes et des paysages arides. Un spectacle ringard et saoulant pour moi, l'incarnation de l'âme fière d'un peuple pour Billy. Alors que la représentation touchait à sa fin, un lointain bourdonnement se fit entendre. D'un même mouvement, les clients tournèrent la tête vers la mer. Un point lumineux apparut à l'horizon. Le vrombissement se fit de plus en plus sourd et la silhouette d'un vieil hydravion se détacha dans le ciel. Maintenant une faible altitude, l'oiseau de fer survola le restaurant pour effectuer un lâcher de fleurs sur la terrasse. En quelques secondes, il se mit à pleuvoir des centaines de roses multicolores qui finirent par recouvrir totalement le parquet brillant du restaurant. Des applaudissements nourris saluèrent cette averse florale inattendue. Puis l'hydravion réapparut au-dessus de nos têtes avant de se lancer dans une chorégraphie chaotique. Des fumigènes phosphorescents dessinèrent dans le ciel un improbable cœur de fumée qui s'étiola rapidement dans la nuit mexicaine. Une nouvelle clameur s'éleva dans l'assistance lorsque toutes les lumières s'éteignirent et que le maître d'hôtel s'avança vers la table d'Aurore et de Rafael Barros. Il portait sur un plateau d'argent une bague sertie d'un diamant. Puis Rafael s'agenouilla pour faire sa demande en mariage, tandis qu'un serveur se tenait en retrait, prêt à sabrer le champagne pour fêter le « oui » d'Aurore. Tout était parfait, réglé et millimétré, à condition d'aimer le romantisme dégoulinant et les moments préfabriqués vendus sur catalogue. Mais n'était-ce pas justement tout ce que détestait Aurore ? J'étais trop loin pour entendre sa réponse, mais suffisamment proche pour lire sur ses lèvres. « Je suis désolée », murmura-t-elle, sans que je sache vraiment si ces mots s'adressaient à elle-même, à l'assistance ou à Rafael Barros. Pourquoi les mecs ne réfléchissent-ils pas davantage avant de faire ce genre de demande ? Il y eut un silence très pesant, comme si l'ensemble du restaurant était gêné pour ce demi-dieu déchu qui n'était plus à présent qu'un pauvre type avec son genou à terre, immobile comme une statue de sel, figé dans la honte et l'hébétude. J'étais passé par là avant lui et, à cet instant précis, j'éprouvais davantage de compassion à son égard que de jubilation par esprit de revanche. Enfin, ça, c'était avant qu'il se lève et qu'il traverse la salle avec une sorte de majesté blessée et que, sans que je m'y attende le moins du monde, il me balance une droite façon Mike Tyson. Et ce saligo s'est avancé vers vous pour vous mettre un bourre pif en pleine poire, résuma le docteur Mortimer Philipson. Clinique de l'hôtel, 3/4 d'heure plus tard.
C'est à peu près ça, acquiesçai-je tandis qu'il désinfectait ma plaie.
Vous avez de la chance. Ça a beaucoup saigné, mais votre nez n'est pas cassé.
C'est toujours ça de prix.
Par contre, votre visage est huméfié, comme si vous aviez été passé à tabac. Vous vous êtes battu récemment ?
J'ai eu une altercation dans un bar contre un certain Rezus et sa bande de copains, répondis-je vaguement.
Et vous avez une côte enfoncée ainsi qu'une vilaine entorse à la cheville. Elle est salement enflée. Je vais vous appliquer une pommade, mais il faudra revenir me voir demain matin pour que je vous mette un pansement compressif. Vous vous êtes fait ça comment ?
Je suis tombé sur le toit d'une voiture, répondis-je le plus naturellement du monde.
Vous vivez dangereusement.
Depuis quelques jours, on peut dire ça.
Le centre de soins de l'hôtel n'était pas un simple petit dispensaire, mais un complexe moderne aux installations high-tech.
« Nous soignons les plus grandes stars de la planète », me répondit le médecin alors que je lui en faisais la remarque.
Mortimer Philipson était proche de la retraite. Sa silhouette longiligne très british contrastait avec son visage bronzé, ses traits burinés et ses yeux clairs et rieurs. Il avait l'allure d'un Peter O'Toole qui aurait tourné une version senior de Laurence d'Arabie. Il termina de me frictionner la cheville et demanda à une infirmière de m'apporter des béquilles.
« Je vous conseille de ne pas mettre le pied par terre pendant quelques jours »,
me prévint-il en me donnant sa carte de visite sur laquelle il avait inscrit mon rendez-vous pour le lendemain. Je le remerciai pour ses soins et, à l'aide de mes cannes, me traînai laborieusement jusqu'à ma suite. La chambre baignait dans une lumière douce. Au centre de la pièce, un feu clair pétillait dans la cheminée, projetant son halo sur les murs et au plafond.
Je cherchais Billy, mais elle n'était ni dans le salon, ni dans la salle de bain. Le refrain assourdi d'une chanson de Nina Simone parvint jusqu'à mes oreilles. Je tirai les rideaux donnant sur la terrasse et découvris la jeune femme, les yeux clos, qui prenait un bain à la belle étoile dans le jacuzzi à débordement. Tout en ligne incurvée, la cuve était habillée de mosaïques bleues. Pour l'alimenter, un large bec de cygne déversait en cascade un filet d'eau dont l'éclairage savant faisait se succéder toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Vous venez me rejoindre ?» me provoqua-t-elle sans ouvrir les yeux. Je m'approchai du spa. Il était entouré d'une vingtaine de petites bougies qui formaient une barrière de flamèches. La surface de l'eau brillait comme du champagne, et on distinguait par transparence les bulles dorées qui remontaient à la surface depuis la buse. Je posai mes béquilles, déboutonnai ma chemise et ôtai mon jean avant de me glisser dans l'eau. Celle-ci était très chaude, à la limite du supportable. Répartis dans tout le bassin, une trentaine de jets produisaient un massage plus revigorant que relaxant, tandis qu'aux quatre coins, des haut-parleurs étanches diffusaient une musique envoûtante. Billy ouvrit les yeux et tendit la main pour effleurer de ses doigts le pansement adhésif dont Philipson venait de me recouvrir le nez. Éclairé par le bas, son visage était diaphane et ses cheveux donnaient l'impression d'avoir blanchi. « Le guerrier a besoin de repos », plaisanta-t-elle en se rapprochant de moi. Je tentai de résister à son avance. Je ne crois pas qu'il soit utile de rejouer l'épisode du baiser. « Osez dire que ça ne vous a pas plu. »
« Là n'est pas la question. »
« Ça a marché pourtant. Quelques heures plus tard, votre chère Aurore rompait ses fiançailles avec fracas. »«
Peut-être, mais Aurore n'est pas avec nous dans ce jacuzzi. »«
Qu'est-ce que vous en savez ?» demanda-t-elle en se coulant dans mes bras. « Dans chacune des chambres de l'hôtel, il y a une longue vue sur la terrasse, et tout le monde mate tout le monde. Vous ne vous en êtes pas aperçu ?»
À présent, son visage n'était qu'à quelques centimètres du mien. Ses yeux étaient couleur tilleul. Les pores de sa peau s'étaient dilatés sous l'effet de la vapeur, et des gouttes de sueur perlaient sur son front.
« Peut-être qu'elle nous regarde en ce moment ?» continua-t-elle. « Ne me dites pas que ça ne vous excite pas un peu ?»
Je détestais ce jeu. Il me ressemblait si peu. Et pourtant, emporté par le souvenir de notre baiser précédent, je me laissais aller à poser une main sur sa hanche et l'autre au creux de son cou. Elle colla doucement ses lèvres sur mes lèvres et ma langue chercha la sienne. De nouveau, la magie opéra, mais ne dura que quelques secondes jusqu'à ce qu'une amertume prononcée me fasse interrompre ce baiser. J'avais un goût aigre, piquant et râpeux dans la bouche et je reculai brusquement. Billy semblait abasourdi. C'est alors que je vis ses lèvres noircies et sa langue violacée. Ses yeux s'étaient enflammés, mais sa peau était de plus en plus pâle. Elle frissonnait, claquait des dents et se mordait la lèvre. Inquiet, je quittai le jacuzzi, l'aidai à sortir à son tour et la frictionnai avec une serviette. Je la sentis flageolée sur ses jambes, prête à s'écrouler. Agitée d'une violente quinte de toux, elle me repoussa pour mieux se pencher en avant. Prise d'une soudaine envie de vomir. Avec douleur, elle régurgita une pâte épaisse et visqueuse avant de s'écrouler sur le sol. Mais ce que je voyais n'était pas du vomi. C'était de l'encre.